Et rebonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Rochard. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Aujourd'hui, pour parler de l'Ennéagramme, un petit rappel sur tout ce que tu fais, toutes tes conférences.
Oui, voilà, parce que je fais une trilogie, je suis donc consultante en relations d'aide, je fais une trilogie sur la communication. La première, j'étais venue la présenter, c'était retrouver son enfant intérieur pour mieux communiquer. L'enfant intérieur, c'est un outil avec lequel je travaille, c'est le petit enfant blessé qui est à l'intérieur de nous, parce qu'on a tous vécu des choses, même qui peuvent paraître anecdotiques pour les adultes, mais des petites blessures, et qui transparaissent dans notre communication de tous les jours. On croit communiquer en tant qu'adulte, alors qu'enfant, c'est souvent l'enfant intérieur qui communique. La deuxième conférence intitulée « Sortir du triangle bourreau-sauveur-victime », c'est un outil d'analyse transactionnelle, qui est un outil de psychothérapie, où très inconsciemment, pareil, dans la communication, on est dans des jeux psychologiques où tantôt on est le sauveur, tantôt la victime, tantôt le bourreau. Voilà. Et là, c'est la troisième conférence que je vais vous présenter, que j'ai fait aux Alberts le samedi 16, que je vais représenter à l'UTL notamment, à Guillestre, à Valouise et à Briançon. Je vous donnerai les dates après. C'est connaître l'énéagramme pour mieux communiquer.
Tout d'abord, qu'est-ce que cet énéagramme ?
Alors, c'est vrai que c'est un terme un petit peu barbare. Ça vient déjà du grec. Hein. On va faire un petit peu d'étymologie. Ça vient de énéa, qui veut dire neuf, et grammos, qui veut dire point. En fait, c'est un diagramme en forme d'étoile avec neuf branches. Et chaque branche correspond à un type d'habitude quotidienne que l'on peut avoir. C'est neuf personnalités, en fait. Hein. On peut se reconnaître dans les neuf, et effectivement, chaque fois que je fais la conférence, je détaille un peu les neuf, là, j'aurai pas le temps, hein. Mais on peut se reconnaître effectivement dans les neuf, au niveau des types de comportements, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en situation de stress, on se dirige plus vers un type de comportement particulier qui définit ce qu'on appelle notre profil. Alors, les profils, il y a des chiffres, ça va de 1 à 9, et il y a des noms, effectivement, associés au profil. Alors, selon les écoles, les noms peuvent être différents, mais ça se ressemble un petit peu tout. Alors, on a par exemple, je vais les citer malgré tout, le 1, c'est le perfectionniste, le 2, l'altruiste, le 3, le tragico-romantique, le 4, le tragico-romantique, le 5, l'observateur, le 6, le loyaliste, le 7, l'épicurien, le 8, c'est le meneur ou le protecteur, et le 9, le médiateur. Alors déjà, les noms peuvent dire un petit peu le type de comportement. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'outil de l'énéagramme, c'est pas un outil qui enferme dans des cases, parce que développer comme ça, on pourrait dire, mais moi, je veux pas être catalogué dans une case. C'est pas du tout ça. C'est un outil vraiment de connaissance de soi plus que de thérapie, au départ, mais qui permet justement de découvrir encore un peu plus nos modes de fonctionnement inconscient. Et c'est tout au long de ces conférences, c'est ce que j'ai essayé de montrer, de mettre de la lumière sur tout ce qui est inconscient dans notre communication. Et là, c'est un outil supplémentaire, mais qui est d'une richesse fabuleuse. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'énéagramme, d'où ça vient ? C'est vrai que souvent les gens, quand j'en parle, ils disent « qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne connais pas ». En fait, c'est un outil qui a existé, qui existe depuis la nuit des temps. On en a parlé depuis très longtemps. Alors, on ne sait pas très bien vraiment l'origine de l'énéagramme, mais il y a des pistes qui mènent à des savants babyloniens de 2500 avant Jésus-Christ, quand même. On a établi des ressemblances avec des écrits en Égypte, du temps de Pythagore aussi. Mais par contre, il y a quelque chose qui est unanime, les gens qui ont fait des recherches sont unanimes, sur des pistes qui mènent au Père du désert, dans la tradition chrétienne, mais surtout aux soufis. Vous savez, ces mystiques musulmans qui datent du 14e ou du 15e siècle. D'assez, c'est l'unanimité. En Europe, par contre, l'énéagramme est rentré vers 1920 avec Georg Ivanovitch Gurdjieff. Excusez-moi, c'est un peu compliqué à dire. C'est un enseignant spirituel qui a déjà proposé l'énéagramme. Après, on en reparle dans les années 60 aussi. Avec notamment Oscar Ichazo et puis Naranjo, qui est un psychiatre chilien, qui lui a donné la forme définitive de l'énéagramme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors l'énéagramme est beaucoup utilisé aux États-Unis, notamment grâce à Hélène Palmer, qui est une psychiatre américaine, qui l'a beaucoup développé. C'est très utilisé notamment dans les entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'applications de cet outil-là. Dans les entreprises, c'est utilisé au niveau de la gestion des ressources humaines. Les DRH sont formés à ça. En France aussi, maintenant, de plus en plus de DRH sont formés à ça Pourquoi ? Ben, c'est l'une des applications intéressantes, c'est quand on connaît le profil de chacun des personnes qui travaillent avec vous, les DRH peuvent former des équipes en utilisant les compétences de chacun. Et du coup, faire des équipes qui sont autonomes, qui sont contentes de travailler en plus, parce que ça augmente la motivation professionnelle. Et du coup, il y a une meilleure rentabilité pour l'entreprise, parce que c'est le but final quand même, malgré tout. Donc, l'énéagramme est souvent utilisé dans les entreprises. Mais c'est très intéressant au niveau privé, cet énéagramme aussi, parce que ben, quand vous connaissez votre profil vous-même, vous savez que parfois vous êtes dans un mode de fonctionnement, vous êtes en réaction émotionnelle parce que ça vient encore, et là on va reparler un peu de la conférence sur l'enfant intérieur, ça vient des blessures de l'enfance. Comment se choisit notre profil privilégié ? Parce que je vous ai dit que nous avons un profil type de base, même si on se reconnaît dans les neuf, mais ce profil-là, c'est lié aux blessures de l'enfance, en fait, là encore. Parce que l'enfant, eh ben, il se rend compte qu'il n'est pas aimé pour lui-même, mais que les parents projettent des choses sur lui. Ce que je vous avais dit un petit peu en présentant la conférence sur l'enfant, voilà, l'enfant intérieur. Dans l'éducation, on croit élever nos enfants pour eux, et on fait toujours le bien pour l'enfant. Mais très inconsciemment, on cherche à se guérir de nos propres blessures, de notre enfance. Et du coup, on ne voit pas l'enfant tel qu'il est, mais on se projette à l'intérieur de cet enfant. Un exemple, j'ai tellement souffert de ce que j'ai vécu enfant, je ne vais surtout pas adapter, avoir le même comportement que mes parents. Voilà. Et du coup, je prends un autre comportement complètement différent à l'opposé, que moi j'aurais aimé qu'ils aient eu à l'époque. Mais du coup, l'enfant, ce n'est pas forcément son besoin. D'où ces créations de blessures. Et du coup, l'enfant, eh ben, il se rend compte qu'il ne peut pas être lui-même. Et du coup, il va se couper d'une partie de son moi profond en le protégeant d'une coquille protectrice. C'est le profil. Alors, par rapport à l'enfant intérieur, ben, ça rappelle les masques. Je vous avais parlé du masque d'enfant adapté soumis, du masque d'enfant adapté rebelle. Dans la conférence sur le triangle, le masque du bourreau, le masque du sauveur, le masque de la victime, c'est aussi des masques. Et bien là, les neuf profils, c'est encore un costume, un masque que la personne, que l'enfant choisit pour avoir quoi ? Ben de l'affection, parce qu'il se rend compte que si il répond aux attentes de ses parents, il va avoir un minimum d'affection, parce que c'est toujours ses blessures de manque d'amour, il ne se sent pas aimé pour qui il est. Et du coup, ben, le profil, avec le type d'habitude qui est associé au profil, ben, va lui donner une affection compensatoire. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'il grandit, ben, il va s'identifier à son profil, et adulte, on n'est même plus conscient qu'on est dans un masque, qu'on est dans un costume, que ce soit le battant, le meneur, l'observateur, voilà, des habitudes, ça devient notre personnalité et on croit n'être que ça. Et là encore, on se coupe de toute notre richesse intérieure. Donc, de connaître cet outil, ça permet vraiment de détricoter la personnalité, en fait. Parce que c'est ça le but de tous ces outils, c'est de détricoter un petit peu, de voir un petit peu qui on est vraiment, au-delà de la façade que nous montrons aux autres, que nous nous montrons à nous-mêmes, pour aller à la source de qui on est. Alors, quel est l'intérêt, vous allez me dire, de tricoter, détricoter la personnalité ? Ben, si tout va bien dans votre vie, si tout va bien dans votre vie, il n'y a pas besoin, effectivement. Mais quand même, notre communication, ce n'est pas top, généralement. On a souvent des réactions émotionnelles face aux autres. « Oh, celui-là, mais il m'énerve, je ne le supporte pas !» Ben, très inconsciemment, c'est qu'il a un comportement qui nous rappelle
quelque
une situation
qu'on n'aimait pas.
Voilà, qu'on a déjà vécu, ou un comportement inconscient du papa, de la maman, par exemple. Et du coup, notre communication, on ressent de la colère ou de la tristesse, des choses comme ça. Et toute cette pollution est faite, en fait, par nos masques. Donc, de prendre conscience de tous nos masques, que ça soit masque d'enfant adapté soumis, rebelle ou bourreau sauveur victime, ou le masque, par exemple, du médiateur, de l'observateur, du tragico-romantique, eh ben, ça permet de se détacher, de voir que derrière ce masque, il y a une autre part de nous, beaucoup plus riche. Et du coup, on va donner le droit à l'autre personne d'être différent. Parce que l'intérêt de connaître l'outil de l'énéagramme, c'est d'abord pour soi, mais ensuite, quand on connaît bien, on arrive à typer, on appelle ça typer l'autre personne, c'est-à-dire pas l'enfermer dans une case, mais dire, ah, il a plus un mode de comportement qui ressemblerait au battant, à l'épicurien. Et du coup, on n'est plus en réaction émotionnelle face à certains de ses comportements, parce qu'on sait qu'il est dans son masque. Et on n'en fait pas une affaire personnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les 4 accords Toltec. Il y a un accord Toltec, c'est une tradition qui date au niveau des Aztèques pratiquement, hein, qui est très très ancienne. Il y a 4 accords, que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire être cohérent avec soi-même, penser, dire et faire la même chose. N'en fais pas une affaire personnelle, et c'est là cet accord Toltec. Chaque fois que quelque chose se passe en face de nous, on a l'impression que c'est contre nous que la personne dit les choses, alors qu'elle est en fait que dans son masque. Et du coup, cet accord-là, eh ben, du coup, ça permet de se détacher de la réaction de l'autre, de son comportement. Si l'autre se met en colère justement contre nous, au lieu de devenir une petite victime, on se dit « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Il est en colère
le
à cause de moi. »
Le petit canard noir.
Le petit fameux Calimero, voilà, effectivement. Eh bien non, à ce moment-là, on se rend compte qu'il est agressif contre nous parce qu'il est dans ses blessures. Parce qu'une chose importante, nous sommes tous responsables de nos états émotionnels intérieurs. Quand on accuse l'autre en disant « c'est ta faute si je suis en colère !» Eh bien non, on ne prend pas notre responsabilité. L'autre a appuyé sur un détonateur, un bouton, un point sensible, et on a choisi de répondre parce qu'on n'avait pas d'autre moyen à ce moment-là. On a choisi de répondre par exemple par de la colère. Mais quelqu'un d'autre dans la même situation aurait répondu en partant, en s'en moquant, par exemple. Ou alors, il aurait choisi de pleurer comme un Calimero, par exemple. Donc, c'est là qu'on peut voir que nous sommes responsables individuellement de tout ce qui se passe en nous, même de notre souffrance. « Ah, je souffre, il m'a tellement fait souffrir !» Non, il a eu un comportement, cette personne-là a eu un comportement, et moi, j'ai réagi par de la souffrance parce que ça me rappelle des blessures anciennes. Et c'est ça, prendre la responsabilité de nos échanges, de ce qui se passe dans nos échanges. Parce que nous sommes vraiment co-créateurs de tous nos échanges. On a une part de responsabilité. Ce n'est pas de la culpabilité, attention. Souvent, on fait l'amalgame, hein, entre culpabilité et responsabilité. Être responsable des choses, c'est que savoir qu'on a une partie. Quand on fait quelque chose, il y a des conséquences. Chaque choix que l'on fait, il y a des conséquences et on doit assumer les conséquences. C'est ça, être responsable. C'est pas accuser l'autre. Quand on est dans l'accusation de l'autre, c'est qu'on ne prend pas sa responsabilité. On se décharge sur l'autre de la responsabilité de ce qui se passe, alors qu'on est vraiment co-créateur de tout ce qui se passe. Et donc l'énéagramme, c'est ça. C'est vraiment un outil de mise en lumière de ce que l'on est. Du coup, on va pouvoir faire des suppositions sur la typologie de l'autre, hein, une fois qu'on est formé, parce que c'est à la personne elle-même à trouver son type, hein. Et du coup, eh ben, ça va permettre de moins être en réaction émotionnelle. D'où ça améliore encore la communication, parce que moi, c'est le but de transmettre ces informations pour améliorer notre communication.
Et est-ce que les chiffres de 1 à 9 ont un rapport avec la numérologie ou pas du tout ?
Alors, il y a des liens qui ont été faits, effectivement, avec la numérologie. On peut faire des liens aussi avec la psychologie, parce que les typologies, par rapport au DSM-4, qui est le dictionnaire psychiatrique, effectivement, certains profils, comme par exemple le tragico-romantique, ressembleraient plus au profil dépressif, par exemple. Il y a un fond de dépression derrière. Il y a le loyaliste, c'est plus le... non, c'est pas le loyaliste, pardon. Il y a le meneur, je crois que c'est plus le narcissique, quelque chose comme ça. Mais on peut faire des liens avec beaucoup de choses, justement. C'est pour ça que c'est un outil très riche, effectivement. Alors, en plus de l'influence, chaque typologie est influencée par les chiffres qu'il y a à côté. On appelle ça les ailes. Alors, une aile, bah, par exemple, je vais prendre mon exemple, hein. Moi, je suis 4, c'est-à-dire tragico-romantique. Je suis influencée par l'aile du battant. Et le battant, eh bien, c'est quelqu'un qui est en suractivité, qui est beaucoup dans le faire. Et c'est vrai que j'ai mon aile 3 qui est très développée, parce que je suis toujours à fond la caisse, à faire plein de choses. Je schématise, c'est vraiment très succinct tout ce que je dis, hein, sur ces typologies-là. Et puis à côté, il y a l'aile 5 qui est l'observateur. L'observateur, il est dans les bouquins, il est dans l'érudition, il veut avoir la connaissance de tout. Parce que lui, son image aussi, il se protège, lui, parce que chaque petit profil se protège de quelque chose, en fait. Et le 5, par exemple, se protège de l'intrusion des autres dans son espace. Donc, c'est un petit peu l'image du château fort. il monte, il ouvre pas le pont-levis, il baisse pas le pont-levis pour tout le monde. Il faut montrer la patte blanche avant d'eux. Et par exemple, j'ai un de mes fils qui est 5, effectivement, qui semble être 5. Et nous avions de gros problèmes de communication, justement, parce que moi, je suis une 4 et je suis extravertie et puis je suis dans les émotions, essentiellement. Alors que le 5, lui, il se coupe de ses émotions complètement, par exemple. Et il ne communique pas du tout de la même façon. Et du coup, il y avait de gros conflits parce que avant que je connaisse l'énéagramme, hein, bien sûr, après, ça a changé les choses, ça a été miraculeux. Effectivement, moi, j'avais un mode de fonctionnement où je le questionnais pour savoir ce qu'il ressentait, comment il se sentait, etc. Et lui, il le prenait comme une agression, vraiment. Et plus il s'enfermait, plus je le questionnais. Et ça finissait par des clashs. Voilà, par exemple, hein. C'est pareil, pour prendre un autre exemple, l'épicurien. Alors c'est vrai qu'on a tous envie d'être épicurien, parce que le mot, déjà, c'est quoi ? Parce que l'épicurien est, par exemple, dans la recherche du plaisir à fond.
Voilà, oui.
Il est gourmand de tout. Oui. Mais il est gourmand de tout. Il a un agenda surbooké, il adore prévoir plein de projets, de fêtes, de voyages, mais il ne va pas forcément au bout. Parce que lui, ce qu'il cherche à éviter, c'est la souffrance, qu'elle soit physique ou morale. Donc, dès qu'il perd le plaisir de faire, eh ben, il se lasse. Et du coup, il laisse tomber. Il ne va pas au bout. Oui. Et il réinvestit son énergie sur autre chose. Parce qu'il ne veut pas toucher à la souffrance. Et là encore, c'est des blessures de l'enfance. Comme le 5, qui ne veut pas toucher, qui ne veut pas être dans l'intrus, qui ne veut pas qu'on intruse son espace. Eh bien, lui, il se protège à cette façon-là. Par exemple, voilà. Le 4, lui, le 4, donc le tragico-romantique, lui, il a besoin, il évite la banalité. Il recherche l'originalité dans tout. Et c'est vrai que les gens qui me connaissent, par exemple, j'ai un maquillage arc-en-ciel sur les yeux, c'est pas vu de tout le monde. Je faisais ce maquillage, je ne savais pas pourquoi. Quand j'ai connu l'anagramme, j'ai dit, mais c'est pour ça, c'est que je refuse la banalité. Voilà, par exemple, hein, c'est très schématique, bien sûr. Le perfectionnisme, comme son nom l'indique, perfectionniste, il est dans la recherche
de... Tout doit être la perfection, carré et droit.
Ah, carré et droit, et puis il l'impose aux autres, par exemple, en plus, cette perfection. Pourquoi il fait ça ? Lui, ce qu'il évite à tout prix, en plus, il met un masque de gentillesse pour faire passer tous ses messages, parce qu'il ne supporte pas la colère, par exemple. Il ne sait pas se mettre en colère, il ne veut pas, parce qu'il ne serait pas parfait s'il se mettait en colère. Donc, du coup, il est dans la perfection de tout. Donc, c'est quelqu'un de très... rigide, je vais employer ce mot, mais c'est pas péjoratif hein, dans mon sens, mais il est vraiment très droit dans tout. Mais tous ces profils, là je vous ai donné quelques petites notions, hein, c'est assez rapide, tous ces profils ont des points, des vraies forces, des qualités, parce que ce désir de perfection du 4, du 1, pardon, eh bien, quand la personne a travaillé sur elle, ça devient un profil évolué. Et à ce moment-là, cette recherche de perfection, eh ben, c'est très bien parce qu'elle peut l'utiliser, parce que la personne a une très grande capacité de travail. Elle est honnête, elle est droite, elle respecte les règles. Donc ça devient une vraie force. Et tous les profils, c'est ça, effectivement. Ils ont tous une vraie force. Le 5, ses connaissances, effectivement, quand il est évolué, ça devient de vrais experts, de très bons décisionnaires. Au niveau du 4, eh ben, il a cette recherche de sortir de la banalité. Il a un esprit très créatif. Donc, du coup, il a beaucoup de facilité pour créer. Et en plus, il a une capacité de, comme il a ce côté dépressif, entre guillemets, de fond, qu'il ne veut pas voir d'ailleurs, hein, il va être très en compassion avec la souffrance d'autrui. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas thérapeute pour rien. Parce que j'ai cette compassion pour la souffrance d'autrui, parce que le 4 aussi, il manque toujours quelque chose, l'herbe est plus verte ailleurs, donc il n'est jamais heureux, le 4. Et c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai été dans le caliméro, ce n'est pas mon masque préféré, mais j'ai eu ce masque de victime aussi. Donc de savoir tout ça, ça permet vraiment de grandir et d'utiliser les compétences de chacun des profils, parce que c'est des vraies richesses, c'est une vraie richesse. Et là, je vous ai parlé que de l'influence des ailes, c'est-à-dire les chiffres qui sont à côté de chacun des profils, mais si vous allez sur mon profil Facebook Sylvie Rochard Briançon 05, vous verrez, il y a le diagramme, vous pouvez le trouver sur Internet aussi, hein. Le diagramme, il y a des flèches en plus, et donc ça apporte une influence supplémentaire. L'énéagramme, c'est comme des poupées russes, vous croyez connaître... quelque chose, et puis vous aurez une subtilité supplémentaire. C'est vraiment d'une richesse énorme. Et c'est vraiment un outil de aussi, c'est, moi j'appelle ça un outil psycho-spirituel, parce qu'il y a une vraie notion de spiritualité aussi, que j'ai découverte après, un peu plus tard, qu'on ne voit pas tout de suite. Ce n'est pas qu'un outil de connaissance de soi, mais c'est vraiment un outil de reconnexion avec notre partie divine, notre âme, notre source. Et le chemin spirituel, c'est effectivement, à mon sens, hein, de se dégager de ce qu'on croit être de notre personnalité pour aller à la source. Et cet outil-là, il est vraiment fabuleux pour ce chemin-là. C'est vraiment complet. Je trouve, moi, c'est vrai que je fais des liens avec le triangle, parce qu'effectivement, dans le triangle dramatique, les postures bourreau-sauveur-victime, ben on les retrouve aussi dans cet énéagramme-là. Par exemple, l'altruiste, il est le sauveur du monde, hein, lui aussi, comme son nom l'indique, il va aller au-devant des besoins des autres, il nie complètement ses besoins. Eh ben, c'est le sauveur du triangle. Donc je fais des liens aussi avec ce triangle-là, avec les blessures de l'enfance aussi, bien évidemment, puisqu'à la base, c'est une blessure qui permet de choisir ce profil-là. Alors c'est vrai que ça paraît peut-être très complexe comme ça. Comment déterminer votre type, effectivement, ben, c'est simple. Non, c'est déjà prendre... enfin, c'est simple pour moi, oui, peut-être, mais enfin bon. C'est déjà prendre conscience de vos mécanismes. Qu'est-ce que dans telle situation, comment tu réagis, comment tu fais les choses? Parce que c'est vrai que ce qui a été très intéressant quand j'ai fait ma formation sur l'énéagramme, c'est que régulièrement, on était placé par profil pour certains exercices. Et là, c'était fabuleux parce qu'on se retrouvait entre nous. On se dit « Oh, chouette, il y a des gens comme moi !» Par contre, on voyait les, entre guillemets, brebis légaleuses, celles qui croyaient être de notre profil, qui était avec nous, et puis quand on mettait une situation en place, on disait ben, « qu'est-ce qui se passe quand il y a telle chose qui se passe dans la vie ?» On avait tous la même réponse, et la brebis galeuse, j'appelle ça, c'est pas péjoratif, mais celle qui se croyait de notre profil, eh ben, elle réagissait pas pareil. Et à la fin de la formation, il y avait une personne dans le groupe comme ça, elle s'est dit « ah mais non, finalement, je suis pas 4, je suis 1 ». Mais elle voulait pas le voir parce que ben, sa mère était 1. Ouais. Et puis voilà, c'était par rapport à la relation qu'elle avait avec sa mère, et sa mère était 1. Donc elle a pris conscience de tout ça, et du coup ça lui a apporté beaucoup. Mais c'est vrai que c'est une tradition orale essentiellement, hein, d'observation justement. Donc la première chose, c'est de vous observer dans vos modes de fonctionnement, en utilisant toujours ce que je disais, la respiration ventrale, pour se déconnecter de l'importance que l'on donne à nos pensées. Parce que c'est ça, quand on est dans notre masque, dans notre profil, il y a des petites phrases qui viennent dans notre tête, dit par ce fameux juge intérieur que nous avons, hein, qui nous critique, qui nous juge sans arrêt, et on croit ce que notre cerveau nous dit, alors que ça n'est qu'une pensée au départ, une création mentale qui n'a pas de réalité. Mais on lui accorde de l'importance et on croit que c'est une vérité vraie. Donc, pour se détacher de nos pensées, de nos modes de fonctionnement, c'est quand on est en réaction émotionnelle, par exemple, c'est faire un stop, respirer, se raccrocher aux sensations physiques de notre corps pour revenir dans la réalité de l'instant présent. On parle beaucoup actuellement de toutes ces techniques de pleine conscience, de l'instant présent, parce que c'est la base pour prendre conscience des choses. C'est pas se juger d'avoir tel comportement, c'est justement revenir dans notre corps, parce que notre corps, il sait ce qui est bon pour nous. Notre tête, je suis désolée, c'est elle qui fout le bazar dans notre vie, parce qu'elle nous envoie des 62 000 pensées par jour, et on les croit, ces 62 000 pensées. « Oh, lui, il a dit ça parce qu'il pense ça de moi », donc on se projette en plus dans la tête de l'autre. Mais c'est tout faux, on n'est pas dans la tête de l'autre, on ne sait pas ce qu'il pense. Donc déjà, il faut savoir ce qu'on pense, nous, se recentrer. Et ce travail de recentrage sur nous passe par les techniques respiratoires. La pleine conscience, c'est aussi toutes ces techniques de respiration, d'être dans l'instant présent. Eh bien, quand on mange, de sentir au niveau de la bouche les petits muscles qui sont en mise en activité. Le contact, si on mange un fruit, du fruit sur la langue, le goût, la saveur, la texture. Là, vous êtes dans l'instant présent, vous ne pensez pas. Et c'est parfait. Et plus on s'entraîne comme ça, plus nous nous entraînons à être dans l'instant présent, plus quand il y aura des pensées perturbantes, on arrivera à se recentrer. Plus quand on aura en face de nous quelqu'un qui va nous titiller, que ça va nous mettre dans tous nos états, on saura, hop, il est dans son masque, je respire. Et je vois, moi, ce que ça me fait. Donc, l'énéagramme, pour moi, c'est un outil supplémentaire pour aller à la découverte de notre diamant. Je vais expliquer que l'être humain est un diamant avec mille et une facettes. Eh bien, c'est ça. On découvre nos facettes dont on n'a pas conscience pour apprendre toujours à s'aimer dans toutes nos facettes. Parce que moi, mon travail, c'est ça. C'est apprendre à s'aimer dans toutes nos facettes, même celles qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas voir. C'est ça, ce travail que je fais. Alors, c'est vrai que ce cycle de conférences, je vais le refaire. Cette conférence sur l'énéagramme, est-ce que tu as des questions ? Parce que je parle beaucoup, mais est-ce que tu as des questions quand même sur l'énéagramme ?
Alors, quand on fait une séance,
oui.
Donc tu fais l'énéagramme, et ensuite, comment ça se déroule ?
Alors, non,
c'est en discutant que tu arrives à trouver le profil de la personne ?
Moi, je m'en sers beaucoup, je vous avais dit, au niveau de l'application effectivement professionnelle dans les entreprises. Moi, effectivement, cet outil me sert par rapport à mes clients. Quand j'ai des clients, par rapport à ce qu'ils me disent, je vois... J'arrive, j'essaye, je fais une supposition, parce que je ne suis pas dans la tête du client, mais je fais une présupposition du profil pour lequel dans lequel il est,
ouais.
Et ça modifie ma façon de travailler avec lui, parce que je ne vais pas axer sur les mêmes choses, parce que je sais son mode de fonctionnement. Par exemple, avec un 7, effectivement, qui est que dans la recherche du plaisir, eh bien, je ne vais pas aller sur ce qui fait mal, justement. On ne va pas gratter où ça fait mal, on va être plus précautionneux. Le 5, c'est pareil, qui est dans son château fort. Je vais le laisser beaucoup plus parler, il faut instaurer la confiance, c'est différent. Avec un 4 qui est plus émotionnel, qui est de ma typologie, ça va couler plus facilement. C'est pas que ça coulera plus facilement, mais je pourrais tout de suite aller dans le travail émotionnel parce que je sais que lui, c'est bon, ça va passer. Donc ça m'aide vraiment dans ma pratique professionnelle. Au niveau de la famille aussi, c'est vrai que je n'ai pas dit ça, au niveau de la famille, de savoir déjà la typologie de mes garçons, ça m'a aidé parce que du coup, après, j'étais plus en... je le respectais pour ce qu'il était. Moi, je savais que j'étais dans mon profil et donc ça nous a vraiment permis de communiquer de façon différemment. Avec le conjoint, c'est la même chose. Quand on sait qu'il est dans une typologie particulière, on n'est plus en réaction émotionnelle. Donc, ça a vraiment de grandes applications. Je vais mettre en place des formations, justement, pour former à l'énéagramme. Parce qu'on peut trouver son profil sur Internet, effectivement. Déjà, je vous avais dit de prendre conscience de vos modes de fonctionnement. Et puis après, vous avez des tests qui sont gratuits sur Internet où... Tu peux déjà voir un peu, parce qu'il y a toute une série de questions, donc on est perdu, on ne sait pas le nom du profil, c'est mettre des lettres à la place, donc on ne sait pas du tout ce que c'est. Et voilà, comment on réagit et dans quoi on se reconnaît le plus. Et après, ça donne, après il faut gratter un petit peu plus, bien sûr, ça donne déjà une idée, effectivement, après. Et c'est vrai que donc je vais mettre en place les formations de l'énéagramme, parce que c'est intéressant. moi, je trouve cet outil intéressant. Donc, au niveau des conférences, cette conférence, je vais la refaire le 5 avril à Valouise, à 18h, à la salle Bon Voisin. Après, je vais la refaire à Guillestre, le 9 mai, puis à l'UTL de Briançon, le 16 mai, à 18h aussi. Alors, si vous êtes intéressé par toutes ces infos, vous pouvez aller vous me demander en ami sur Facebook. Facebook, sur mon Facebook, parce que mon Facebook, c'est que du professionnel, bien évidemment. Enfin, pour moi, c'est évident.
Même dans Tu sais que tu es de Briançon.
Oui, je partage. Voilà, Tu sais que tu es Briançon et le grenier, parce que je publie un petit peu aussi ce que je fais. Vous pouvez avoir aussi sur mon profil, justement, les interviews des deux autres fois où j'avais fait la conférence avec toi, Laura. Et puis, je fais des ateliers de développement personnel aussi que je co-anime avec un coach, un collègue coach qui est spécialisé, Patrice Bonabès, spécialisé en neurosciences appliquées. Donc, on en a fait un mercredi, on en refait un demain matin, samedi 30, de 9h à 12h à la Vachette.
Ou à la Vachette
C'est chez moi. Donc, je donne l'adresse après quand les gens sont intéressés. On l'a divulgué quand même à tout le monde. Voilà, donc vous pouvez m'appeler au 06 02 25 14 61. J'ai mon adresse mail aussi, sylvie.rochard, R-O-C-H-A-R-D, 65, c'est mon année de naissance en fait, @gmail.com. Voilà, et puis il ne faut pas hésiter effectivement à venir voir ces ateliers. Dans les conférences, c'est vrai que c'est ce que je dis à chaque fois, c'est des connaissances que je vous donne. Donc ça nourrit le mental. Mais ça ne sert pas à grand-chose si vous ne passez pas dans l'expérimentation. Et l'expérimentation, concret. Le concret, voilà. Là, c'est dans les ateliers, parce que là, on vous donne des outils. Il y a un petit peu de théorie pour vous expliquer les outils. Mais c'est surtout de la pratique. Et vous travaillez sur vous. Alors, c'est fait dans la bienveillance, bien évidemment, la confidentialité. On ne parle pas de soi, sauf si on en a envie. Mais voilà, il ne faut pas... parce que parfois, ça fait peur un peu le travail de groupe. Oh là là, mon Dieu. Mais en fait, non, on ne parle pas de soi. C'est vraiment un travail individuel, mais on vous donne des outils concrets. Donc, 3 heures, ça peut paraître long, mais ça passe très vite, parce que, en plus, moi, je suis assez clown. Patrice, c'est pareil. Donc, on ne s'ennuie pas, on rit beaucoup. C'est très, très bien, vraiment. Ça coûte 20 euros. Et donc, il y en a encore un demain, de 9h à 12h. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour ? D'autres questions ?
Alors, prochaine fois, donc, tu reviendras pour d'autres émissions.
Oui, avec plaisir. Ah bah oui.
Donc, on était parti, je crois, sur le pervers narcissique.
Alors, je prépare. Alors, ce sera pour la fin d'année, par contre. Hein. Je suis en train de préparer, effectivement, la conférence, une nouvelle conférence, parce que moi, j'adore faire des conférences de semer mes petites graines. Je suis une semeuse de graines, je trouve. Hein. Enfin, je me définis comme ça. Moi, j'aime bien ce travail. Après, à la personne de... Faire germer ou pas, c'est de la responsabilité de la personne, mais moi je sème en tout cas. Et donc je vais en faire une sur la personnalité à comportement pervers narcissique, parce qu'effectivement j'en ai un petit peu parlé dans la conférence sur le triangle bourreau-sauveur-victime, mais là je vais faire une vraie conférence parce que ben, j'ai de la demande, parce que malheureusement il y a beaucoup de personnes qui sont aux prises avec ce style de personnes qui ont des comportements à pervers narcissique.
Oui, il faut
donc du coup,
fuir.
Ça sera comment ? Il faut fuir. Oui, voilà. Hein, on va faire un résumé court. Je vous dis d'entrée de jeu, vous n'allez pas attendre la fin d'année pour la conférence. Fuyez si vous êtes aux prises avec ce genre de personnes. C'est la meilleure chose que vous faites pour vous. C'est un vrai geste d'amour que vous pouvez vous faire pour vous. Voilà. Donc je vais la préparer là pour la fin
et
d'année.
Et comment attirer à moi ce que je souhaite ?
Alors ça, c'est le titre de l'atelier. Oui, merci. J'avais même pas dit le titre de l'atelier. On appelle ça des ateliers de vie en cohérence. Et donc, eh ben l'atelier que nous faisons demain, c'est effectivement comment attirer à moi ce que je souhaite. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ben, les gens
avec des outils.
Voilà. Et les gens sont contents et disent, oh, c'est bluffant. Enfin bon, voilà. Et puis c'est un bon moment de partage. Hein. Donc voilà, vous pouvez venir tester, vous verrez bien ce que ça donne. Mais c'est vraiment du concret. Là. On passe dans la pratique, parce que la mise en pratique, c'est la meilleure façon d'intégrer toutes vos connaissances intellectuelles, de les faire descendre dans votre cœur. Et ça fait partie, à mon sens, de la découverte de qui on est, de notre diamant. Donc moi, je trouve ça fabuleux.
Ben merci beaucoup.
Ah ben
on
merci,
se quitte en voilà. Musique avec Black M sur ma route.
Oui, oui, parce que j'aime bien. Eh ben, souvent sur Facebook et puis dans mes petits SMS, je dis bonne continuation sur votre chemin. Parce que chacun, nous avons notre chemin de vie et de connaissance de soi. Et cette chanson, effectivement, sur ma route, ben, elle parle de toutes les galères qu'on peut avoir, mais du potentiel qu'on trouve à l'intérieur de soi aussi, parce que toutes les solutions sont en nous. Et ça, il faut être convaincu de ça pour ne pas rester dans notre posture victime en croyant que le miracle vient de l'extérieur, vient d'un outil particulier. L'outil n'est rien. Il n'y a pas un meilleur outil plus que l'autre. L'outil, il n'est rien. C'est juste l'investissement que vous donnez à l'outil pour vous en servir pour vous. Mais le pouvoir, il est vraiment à l'intérieur de vous pour changer les choses. Et tout peut être changé. Il y a de l'espoir dans toute situation. Alors c'est facile, vous allez dire, ouais, la cocotte, elle est gentille de dire ça. Mais je vous assure, je l'ai testé moi-même. Quand on commence à travailler sur soi, qu'on va voir le diamant derrière notre facette, qu'on découvre les facettes de notre diamant et qu'on fait ce travail d'amour de soi, d'estime de soi, c'est magique parce que vous impactez votre environnement et l'environnement, il change de lui-même. Donc, je vous encourage à aller sur votre chemin, vous y êtes sur votre chemin, mais de faire des choix qui sont bons pour vous, par amour pour vous et d'écouter vos vrais besoins, de vous recentrer sur vous. Ça, c'est votre vrai chemin qui va vous emmener vers votre âme, vers qui vous êtes vraiment. Donc, cette chanson, je trouve qu'elle est très parlante et puis je l'aime bien. Elle. Voilà.
Merci. C'est parti, merci beaucoup.
Merci à tous.
À bientôt.
À bientôt.
Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. route, sur ma route, oui. Je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui. Une vie de route, sur ma route. Je marchais sans savoir vers où. J'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute. Et dans ma poche, pas un sou. Juste la famille entre nous. Sur ma route, y'a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier. Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand et on est seul, on meurt
sur
seul.
Ma route, oui.
Aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui. Une vie de route, sur ma route. Sur ma route. Sur ma route. Sur ma route. Sur ma route, on m'a fait des coups en douce. L'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite.
Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les buts, savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une pause.
Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui. De l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les sous-routes.
Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le monde.